France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Amoureux des bêtes, amis des chats, des chiens, des ânes et des petits cochons, n'écoutez surtout pas cette émission. En effet, dès l'Antiquité grecque, les animaux qui commettaient une faute, en portant par exemple atteinte à l'homme, étaient jugés par de bien strictes juridictions religieuses. Mais les juridictions laïques jugèrent aussi sévèrement des animaux qui subissaient d'ailleurs les mêmes peines que les êtres humains. La plupart du temps, la peine de mort dans de très humiliantes conditions. Eurent plus de chance, au moment de la Révolution, les perroquets qui criaient « Vive le roi !» Ils étaient simplement condamnés à être rééduqués. En 1970, Jean-Louis Cavalier recevait dans son émission Arcane 70 l'historien des coutumes Jean Vartier, qui venait de publier les procès d'animaux du Moyen-Âge à nos jours. Il nous explique ici pourquoi et comment les animaux comparurent en justice jusqu'au XVIIIe siècle.
Arcane, nom masculin. Arcane, terme d'alchimie. Arcane, opération mystérieuse. Arcane, étymologiquement arcanus, secret, de arca, coffre. Arcane, qui est caché dans le coffre et par conséquent caché à tous les yeux. Arcane 70 par Roger Pilaudin.
Aujourd'hui, Arcane des procès d'animaux. Les animaux condamnés par les juges et les prêtres, subissant les mêmes peines, les mêmes châtiments que les hommes qui en avaient fait les complices inconscients de leurs crimes et de leurs vices, les petits chats sacrifiés par douzaines sur les bûchers de la Saint-Jean parce que la superstition populaire en avait fait l'incarnation du diable, tout cela bien sûr a priori paraît absurde. Pourtant, en dévoilant la logique interne de ces surprenantes juridictions, Jean Vartier met en lumière certains traits essentiels des croyances du Moyen-Âge dont les survivances sont loin d'être éteintes. Jean-Louis Cavalier l'interroge.
Jean Vartier, vous êtes en quelque sorte un historien des coutumes, des superstitions, des usages un peu bizarres de la France. Et dans ce domaine, rien ne semblerait vous étonner. Pourtant, dans vos travaux en propos, vous dites que c'est l'attrait de l'insolite qui vous a guidé un petit peu.
Oui, l'attrait de l'insolite au départ, mais d'un insolite qui comporte ses justifications. Dans le cas particulier, l'insolite était le fait de voir comparaître devant des juges, des animaux, et de voir des juges, le plus sérieusement du monde, instruire leur procès dans toutes les règles de l'art et aboutir à des condamnations qui amenaient ces animaux sur le bûcher ou vers les bois de justice pour être pendus aux fourches patibulaires.
C'est cela. Et alors, dans quelles circonstances ces animaux avaient-ils affaire à la justice ?
Ben, écoutez,
comme quoi ? Comme accusé, comme témoin, comme
écoutez,
complice ?
On a vu des animaux remplir tous les rôles dans les prétoires. Mais dans le cas particulier, il s'agissait, bien entendu, d'accusés. Et ces accusés étaient le plus souvent des animaux domestiques qui avaient dévoré ou blessé mortellement des enfants. C'est ce qui explique que l'animal qui a été le plus souvent jugé par les hommes au cours du Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, c'est le porc. Parce qu'il faut bien dire que le porc vivait dans une promiscuité assez étroite avec l'homme, même avec l'homme des villes, avec l'homme des campagnes, on le comprend. Les pourceaux vivaient surtout à l'état demi-sauvage dans les grandes forêts de chênes et se nourrissaient de la glandée. Mais à Paris même, pendant des siècles, les porcs circulaient librement au long des caniveaux et se nourrissaient des détritus que la population leur lançait depuis les fenêtres.
Mais est-ce que ces cochons n'avaient pas à un certain moment une certaine immunité ? Certains ordres religieux les avaient, non ?
Voilà. Ce qui se passe, il y a ceci de particulier, c'est que pendant une grande partie du Moyen-Âge, tous les porcs avaient droit de cité à Paris. Et des problèmes d'hygiène se sont posés tout de même, et certains de nos rois ont pris un édit tendant à chasser hors des portes de Paris les porcs qui divaguaient. Mais à ce moment-là, les Antonins, ordre religieux sous le patronage de Saint Antoine, ont fait valoir qu'ils avaient un droit reconnu par le pape de transporter avec eux certains porcs, revêtus d'ailleurs de signes particuliers qui les qualifiaient de cochons de Saint Antoine, et en particulier d'une marque, le tau hébreu, qui était imprimé au fer sur leur corps. Et ces moines antonins avaient en particulier le privilège de quêter en tenant en laisse des porcs. Et c'était une fantaisie qui leur rapportait beaucoup d'argent. On en a la preuve par le fait que le pape a dû prendre des bulles pour interdire à d'autres ordres religieux de se faire accompagner de porcs pour procéder aux quêtes.
Alors, si l'animal au début pouvait être sacré en quelque sorte, comment est-il devenu justement cette bête à procès par excellence ?
Bien, écoutez, il était bête à procès à partir du moment où il avait commis un acte qui était contraire à sa vocation. Or, un porc qui devient furieux, un porc qui se lance sur un enfant, un porc qui dévore un enfant, car on a vu de ces animaux laisser peu de choses du corps de leur victime, eh bien ces animaux-là étaient considérés comme impur par la communauté des chrétiens. Donc, il y avait un intérêt évident à ne plus s'en approcher, à ne plus les toucher, à ne plus risquer leur contagion. Alors, que faisait-on ? Eh bien, dès que l'animal avait tué, on demandait à la justice de se saisir de son cas. On l'emprisonnait.
La justice laïque.
Il s'agissait, dans le cas particulier, de la justice qui rendait ses sentences aussi bien contre les sorciers que contre les voleurs de grand chemin, c'est-à-dire les juges laïcs. Et ces juges prononçaient l'arrestation de l'animal, ouvraient un procès dans les formes, procès auquel l'animal le plus souvent n'assistait pas. Mais il arrivait que les témoins de l'accident soient confrontés avec lui. À la fin de ce procès, la sentence était le plus souvent une sentence de mort soit par pendaison, soit par brûlement, soit par... On les enterrait vifs dans certains cas. Et, chose curieuse, la sentence était notifiée solennellement à l'animal dans la prison où on l'avait enfermé.
C'était une prison spécialement aménagée,
non ? Non, pas du tout. C'était la prison commune et il était dans une cellule particulière, mais une cellule qui pouvait servir ordinairement à des brigands le lendemain ou le surlendemain de l'exécution. Elle pouvait être à l'occasion occupée par des brigands. Et chose étonnante également, c'est qu'on donnait un certain lustre à l'exécution. Elle était publique, elle rassemblait un concours de peuple aussi important qu'on en voyait pour les exécutions de sorcières ou d'empoisonneuses, ou même de criminels de droit commun.
Jusqu'à quelle époque on a perpétué cette coutume ?
J'ai trouvé trace de procès d'animaux, de porcs, jusque dans le XVIIIe siècle. Il est bien entendu qu'un des derniers procès fait à un animal est celui qui a été fait au moment de la Terreur au chien de l'invalide Saint-Prix. L'histoire est extrêmement curieuse. L'invalide Saint-Prix était un homme qui avait été suspecté d'accointance avec les émigrés. Ça n'était pas un patriote, cela a été reconnu, et on a même trouvé chez lui des traces d'une correspondance avec les aristos. C'est dire que son cas était pendable. Mais il se trouvait qu'il avait un chien et que ce chien, il l'avait dressé pour aboyer d'une façon particulière lorsque des amis venaient lui rendre visite et lorsque des ennemis, à savoir des patriotes, frappaient à sa porte. Le juge s'est occupé du cas de ce chien, il l'a déclaré irrécupérable et il a stipulé dans son jugement qu'il devait être assommé jusqu'à ce que mort s'ensuive, le jour même de l'exécution de son maître.
C'était une sorte de chien réactionnaire. Il avait été
jugé. C'était le chien réactionnaire. On a aussi connu des perroquets réactionnaires, mais on ne leur a pas infligé une peine aussi rude. Ils ont été tout simplement mis en pension chez de bonnes patriotes qui ont été chargés de leur faire oublier le répertoire habituel. Vive les prêtres, vive les nobles, pour le remplacer par un répertoire plus orthodoxe, à savoir vive la nation.
Et il y avait certains cas où les animaux avaient un rôle précis dans la justice, ils avaient le rôle de témoin à charge ou à desserte. Alors comment ça se passait exactement ?
Ceci se passait surtout au Moyen-Âge, dans certains cas où le maître devait être innocenté d'un crime et devait être reconnu au bénéfice de la légitime défense. Lorsqu'il n'avait pas de témoin, et ceci se passait surtout en Suisse, il était autorisé à amener devant le juge un de ses animaux familiers, un coq, un chien, un chat, à répéter sous serment qu'il avait tué par légitime défense, et si auprès de lui l'animal n'avait aucune réaction, on considérait qu'il avait donné un témoignage favorable à son maître.
Alors, il y a d'autres cas. Nous avons vu le cas de témoins, d'accusés. Et alors, il y a le cas de co-accusés avec l'homme. Alors, c'est des procès assez particuliers. Oui, c'était ce qu'on appelait les procès de bougrerie, je crois.
C'est parce cela. Que... C'est cela. Ces procès de bougrerie qui n'existent plus depuis peu de temps, d'ailleurs, depuis la Révolution, et qui ont été transformés depuis en attentats à la pudeur lorsqu'ils sont commis sous les yeux du public. En réalité, on punissait alors le commerce et les accointances avec les animaux en punissant non seulement l'homme qui s'était livré à ses turpitudes, l'homme ou la femme, mais en déclarant aussi que l'animal était coupable et en stipulant dans le jugement que l'animal devait être exécuté sur le bûcher le plus souvent, avant son maître et sous les yeux de son maître. Il y a eu une exception d'ailleurs, une exception assez curieuse que j'ai relevée. Il s'agissait d'une ânesse qui devait périr avec l'homme qui avait abusé d'elle. Or, cette ânesse était aimée de tout un village, à qui elle rendait de nombreux services. Elle était aimée également de tous les moines d'un monastère à qui elle venait apporter leurs provisions. Et une pétition se fit en sa faveur. On indiqua que si elle avait mal tourné, ça n'était pas de sa faute et qu'elle n'était sûrement pas consentante. Et c'est ainsi que cette ânesse échappa à son châtiment, mais c'est une des rares exceptions dans une juridiction qui fut constante au moins jusqu'à la Révolution et qui était fondée sur différentes justifications, en particulier sur la croyance commune à certains grands esprits, par exemple à Voltaire, à Mirabeau, aussi bien qu'à un certain nombre d'autorités religieuses, que les accointances d'un homme avec un animal était susceptible de porter des fruits, à savoir de faire naître des monstres, et peut-être même des monstres inféodés à Satan.
C'est cela, oui. Mais alors, ce qui est bizarre aussi, c'est que on acceptait le crime de bougrerie avec une facilité extraordinaire. Enfin, accepter. Je veux dire qu'il suffisait d'un témoignage pour que immédiatement le...
Je dirais même que ces affaires de bougrerie ont un point commun avec les affaires de sorcellerie. Le juge était toujours prêt à condamner. C'était la plainte en or, si je puis dire, pour le dénonciateur qui en voulait à son voisin et qui désirait lui faire un mauvais parti. Il l'accusait d'accointance avec le démon. Il suffisait de peu d'indices, puisqu'une femme a été condamnée en Franche-Comté pour avoir été vue certains jours marchant à reculons autour de l'église. On l'a torturée ensuite. À la faveur de la torture, si je puis dire, elle a avoué qu'elle se rendait au sabbat et elle a avoué tout ce que le juge a voulu qu'elle avoue. Or, dans le cas de bougrerie, il suffisait aussi qu'un homme, une femme, vienne dénoncer un proche et faire un récit plus ou moins circonstancié d'accointance avec l'animal. Le présumé coupable était arrêté et soumis exactement au même traitement, à savoir à cette torture, parce que pour établir la culpabilité d'un homme, presque jusqu'à la Révolution, le seul critère était d'obtenir ses aveux par tous les moyens, même si des indices matériels, dans certains cas, pouvaient prouver son innocence contre lui-même, on retenait en priorité ses aveux.
Mais tous les animaux n'étaient pas sujets comme ça au procès.
Non,
certains étaient tabous, enfin tranquilles.
Oui, il y avait effectivement une hiérarchie dans les animaux. Et il y a des animaux qu'on n'a jamais vus devant un tribunal. Il faut bien faire une distinction déjà entre l'animal domestique, dont la vocation n'était pas de tuer, et les animaux sauvages, dits fauves, dont la vocation, elle, était de tuer. On n'aura jamais vu un loup en tant que loup devant le tribunal, parce qu'il était tout à fait normal et dans la vocation du loup de tuer. Donc, si on le rencontrait, on le châtiait, on le tuait sur place. Le plus souvent, on l'empaillait et on faisait faire avec sa dépouille le tour des villages afin de recueillir quelque argent au bénéfice du chasseur. Mais il y avait d'autres animaux qu'on ne voyait rarement parce qu'ils ne sont pas foncièrement agressifs et parce qu'ils ont une réputation de débonnaireté. On ne voyait
le bœuf est là.
Le bœuf, on le voyait rarement. On ne le voyait pour ainsi dire pas. L'âne, on l'a vu dans de très rares cas. On l'a vu surtout dans la région de Mâcon, dans la Saône-et-Loire, condamné lui aussi à être brûlé vif, mais pour un délit très curieux. C'était quand il avait confondu abreuvoir et bénitier. Il faut croire que les églises restaient assez souvent ouvertes en temps de canicule, et tellement ouvertes que des ânes pouvaient s'y égarer, et boire au bénitier pour se désaltérer. Le cas s'est produit à plusieurs reprises dans la région considérée, et chaque fois que l'âne a été pris en flagrant délit d'absorber l'eau bénite, il a été voué au bûcher.
C'est un peu le même cas pour le cochon tout à l'heure. Quand il mangeait un enfant le vendredi, son crime était plus grave, non ?
Absolument, absolument. Et c'est ahurissant, mais les pièces des procès nous font apparaître que la notion de jour maigre intervient dans le cas de cet animal et lorsqu'il a mangé de la chair le vendredi, cela constitue une circonstance aggravante, étant entendu qu'il s'agit de la chair d'enfant. Et je vous parlais de certaines fantaisies en matière d'exécution. La plus célèbre des exécutions d'animaux est celle de la truie de Falaise, qui avait tué un enfant, mais qui l'avait horriblement mutilé. Elle lui avait mangé une partie de la face ainsi qu'un bras. Or, avant de hisser cette truie au sommet du gibet, on lui a coupé le groin, on lui a coupé une patte antérieure et on l'a habillé en homme et on l'a revêtu d'un masque d'homme.
Votre livre a deux parties. La première partie, c'est les animaux devant les juges des hommes. Et la deuxième partie, c'est devant les juges de l'Église.
Oui, les juges des hommes d'Église. Voilà.
Les hommes d'Église, oui. Alors pourquoi cette distinction?
Absolument,
deux juridictions.
Il y a deux juridictions, il y a deux variétés de procès, il y a aussi deux variétés d'accusés, c'est absolument différent. Jusqu'ici, nous n'avons parlé que des juridictions laïques, nous n'avons parlé que des animaux criminels. Criminels parce qu'ils avaient forfait à leur vocation. Tel ce coq de Bâle qui a été condamné par des juges laïcs pour avoir commis le crime de pondre un œuf et qui a été brûlé vif en compagnie de l'œuf sur un bûcher en présence de quelques milliers d'assistants. Mais dans le cas des procès ecclésiastiques qui étaient rendus par les juges d'Église, les juges des diocèses, dans ces juridictions qu'on appelle l'official, il s'agissait essentiellement d'animaux prédateurs des récoltes, c'est-à-dire d'insectes, de rongeurs, de sangsues, de chenilles, de vers, d'animaux qui causaient des dommages aux produits de la terre et notamment aux vignes. Et ces animaux, lorsqu'ils s'abattaient sur un territoire, bien entendu, ça mettait les paysans en désarroi. Ils ne se connaissaient alors qu'une ressource, il n'y avait pas de DDT, de pulvérisation et d'autres remèdes chimiques, ils ne se connaissaient qu'une ressource, aller chez monsieur l'official, chez le juge d'église, et lui demander d'instruire un procès en excommunication contre ces animaux, c'est-à-dire d'aboutir à une sentence qui donnerait à l'animal l'ordre de quitter les lieux qu'il infestait, pour se transporter en des lieux dont on lui fixait explicitement les limites. Faute de quoi, si dans un temps donné, il n'avait pas obtempéré à ses ordres, il était excommunié aussi dans toutes les règles de cette cérémonie, qui était fort impressionnante, dans toutes les règles qu'on employait pour excommunier les hommes.
Oui, mais alors il y a une contradiction, parce que l'Église a toujours refusé d'accorder une âme à nos frères inférieurs.
Oui.
Et en même temps, dans ce cas-là, elle les juge responsables.
Oui.
C'est une sorte de contradiction. Là.
C'est une sorte de contradiction. Il faut bien faire des distinctions entre l'Église des théologiens.
C'est ça, de la tradition thomiste, enfin.
Voilà. L'Église des théologiens, l'Église qui se réfère à saint Thomas d'Aquin, lequel disait « Il est absurde de juger les animaux, à moins que l'animal ne soit possédé par le démon, auquel cas on juge à travers l'animal le démon. Mais l'animal en tant que tel ne devait pas être jugé. » Mais à côté de cette Église des théologiens, il y a aussi l'Église du peuple de Dieu, l'Église des pasteurs, l'Église des gens qui cherchent, dans une certaine mesure, à apaiser le désarroi du menu peuple. Et ces plaintes portées par les vignerons qui avaient leurs vignes infestées, ces procès longs et parfois coûteux, avaient un premier effet, c'est qu'ils apaisaient les esprits. Et même si les animaux continuaient à ravager la terre, l'espérance que les foudres de l'excommunication, cet instrument qu'on jugeait si puissant, puisqu'il faisait courber l'échine des rois eux-mêmes, on espérait que les foudres de l'excommunication allaient chasser tous ces animaux.
Si vous étiez chroniqueur judiciaire d'époque, est-ce que vous pourriez nous retracer un petit peu une affaire? Comment ça se déroulait tout ça? Il y avait des avocats, il y avait des...
Exactement, oui. Alors c'est ça qui est étonnant. c'est la longueur des procès et leur similitude avec les procès humains. Il faut bien vous dire que dans un cas comme dans l'autre, et surtout dans le cas des procès ecclésiastiques, on exigeait d'abord que volontairement l'animal se présente à la barre. On faisait tout pour qu'il soit informé de la plainte portée contre lui. Et lorsqu'il s'agissait de rongeurs, de rats et de souris, etc., on transportait un huissier, on transportait même le curé de la paroisse sur les domaines infestés afin de lire la proclamation du juge qui assignait les animaux à comparaître. Et le premier jour de l'audience, lorsque les trois assignations avaient été lancées, on laissait ouvertes les grandes portes du prétoire afin que les animaux, s'ils s'étaient décidés à obtempérer, n'aient aucun obstacle devant eux pour se présenter à la barre.
C'est ça.
Et ensuite, commençait, lorsque on s'apercevait que décidément ils ne viendraient pas, on leur désignait un curateur, on leur désignait un avocat. Il y avait aussi l'avocat des plaignants, les pauvres paysans. Et les pauvres paysans étaient pénalisés à un double titre parce qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que les rats et les souris et les charançons et les sangsues paient les frais de leur défenseur, paient les honoraires de leur avocat, et c'était bien entendu les plaignants qui payaient, en plus de leur avocat, l'avocat de l'accusé. Les procès duraient un temps infini. On faisait jouer toutes les astuces des procès humains et on sollicitait des renvois pour des raisons les plus futiles parce que je vous ai dit que, par exemple, s'agissait de désigner un territoire dans lequel les animaux qui dévastaient telle culture pourraient se retrancher lorsqu'on les aurait chassés par jugement de ces vignobles et de ces champs. Or, ce territoire, on avait toujours tendance à le délimiter sur des collines arides et en des endroits stériles.
L'avocat des plaignants qui demandait ça.
Il s'agissait de l'avocat des plaignants, bien sûr. Mais le défenseur, tout de suite, regimbait, et il y avait des contradictions, et il y avait des controverses longues, et il y avait des transports de justice sur les lieux, des transports d'experts sur les collines et dans les vallées, et au bout du compte, le plus souvent, lorsque le procès s'achevait, la grosse gelée qui avait mis fin au ravage des prédateurs en ravageant tout, aussi bien les animaux que les cultures, intervenait, et les pauvres plaignants bénissaient le Seigneur parce qu'ils se disaient que c'était le Seigneur qui les avait débarrassés de cette vermine.
Ce qui est curieux, c'est que les avocats des animaux, enfin des bestioles, disons plus généralement, avaient des positions souvent très logiques, très saines, très rationnelles pour les défendre.
Absolument, parce que l'avocat plaidait toujours que l'animal n'avait pas à être jugé parce qu'il n'était pas responsable et se rangeait derrière l'argumentation de saint Thomas d'Aquin. Il disait aussi que l'animal ne pouvait être excommunié puisqu'il n'était pas un individu intégré
dans
l'Église militante et dans l'économie du salut. Argumentation très logique à laquelle nous n'avons rien à redire. Mais aussitôt après, la partie civile, si je puis dire, pour m'exprimer dans un langage plus contemporain, soutenait, elle, qu'il n'en était rien et que ces animaux devaient être punis. Et le plus souvent, on tournait l'obstacle saint Thomas d'Aquin en laissant entendre qu'il y avait quelques diableries là-dessous.
Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut demander pourquoi on jugeait des animaux ?
Ben, écoutez, on les jugeait, j'ai partiellement répondu à la question, on les jugeait peut-être pour deux choses. Quand il s'agissait de ces animaux qui avaient tué des enfants des hommes, on les tuait d'abord pour apaiser les hommes, parce que la douleur qui était consécutive de la perte d'un être aimé, pouvait dans une certaine mesure s'adoucir par la conviction qu'un coupable avait été arrêté et qu'un coupable serait châtié. Il faut faire la part des sensibilités un peu frustes de cette époque du Moyen-Âge finissant. En quelque sorte, il fallait un coupable, on en trouvait un, et c'était l'animal, et on tuait l'animal. Il n'était pas venu à l'idée de ces juges d'incriminer soit le propriétaire de l'animal qu'il avait laissé divaguer, soit les parents qui avaient été négligents à l'égard de leurs enfants. Bien entendu, le propriétaire subissait un dommage dans le fait qu'il ne pouvait pas récupérer la chair de cet animal et qu'il ne pouvait pas la commercialiser puisqu'elle était partie en cendres. Mais on ne lui réclamait nullement de dommages-intérêts. La notion de dommages-intérêts à la suite d'un pareil accident n'est intervenue que très tard, au XIXe siècle, à l'occasion d'un jugement d'ailleurs rendu à l'étranger. Il s'agissait d'une affaire au cours de laquelle un animal, un porc, avait dévoré le menton d'une fillette. Et cette fillette avait été défigurée pour la vie. On a condamné, bien entendu, l'animal à être brûlé, mais, chose nouvelle, on a condamné son propriétaire a versé un capital qui servirait à la constitution d'une dot pour la victime. On a pensé qu'étant défigurée, elle trouverait assez difficilement un mari, mais qu'en y ajoutant une dot à ses rondelettes, elle pourrait en somme combler ce handicap.
Dans votre livre, vous disiez que vous aviez trouvé certains éléments susceptibles d'approfondir la tentative de justification de ces procès d'animaux homicides dans l'ouvrage de Queilloy, L'homme et le sacré, cette espèce d'ambiguïté du sacré,
voilà,
justement.
Voilà. Oui, exactement. Je vous disais que, donc, première explication, apaiser l'opinion publique. Mais seconde explication, faire en sorte que l'impur, qui est une des faces du sacré, ne vienne pas contaminer la communauté des hommes. Je m'explique. L'impur apparaît chaque fois qu'un être, sortant de sa vocation, commet un acte qui lui est inhabituel et qu'il a pu ainsi commettre sous l'emprise d'une inspiration plus ou moins démoniaque. C'était le cas de ces porcs qui tuaient des enfants. Ils devenaient impurs, c'est-à-dire qu'ils devenaient sacrés, mais le sacré maléfique, l'autre face du sacré. Les précautions devaient être prises pour ne plus les approcher, pour ne plus se laisser contaminer par eux, parce que, par le fait même qu'ils s'étaient introduits dans cette impureté, tout en eux était impur. Donc on les isolait, on les emprisonnait. Donc on les faisait juger dans les formes, et on ne les exécutait pas sommairement, parce qu'on ne voulait pas avoir de contact avec eux. Vous me direz, le juge qui les jugeait avait peut-être des contacts avec eux. Le bourreau qui les exécutait avait des contacts avec eux.
C'était des gants.
Oui, déjà, il mettait des gants et il mettait chaque fois une paire de gants nouvelles et il la jetait dans les flammes lorsqu'ils avaient eux-mêmes jeté l'animal dans la flamme. Il y a aussi autre chose. Le juge et le bourreau sont des personnages immunisés par leur fonction contre la contagion de l'impur. C'est ainsi que tout au long de la période de persécution des sorciers, on n'a jamais vu un bourreau ni un juge accusé lui-même de sorcellerie, alors qu'on a vu des curés, des prêtres, des moines accusés de sorcellerie finir sur le bûcher. Théologiquement, tous les démonologues pensaient que le juge et le bourreau avaient reçu une sorte d'immunité qui les garantissait contre les entreprises de Satan. Or, cette immunité avait un prolongement dans le cas des procès d'animaux. C'est pourquoi on chargeait ces hommes qui eux pouvaient le faire impunément, de débarrasser la société d'éléments qui pouvaient la souiller. Je crois que la particularité essentielle de ces procès qu'instruisaient les juges d'église est la suivante. Il stipulait que l'animal devait se transporter d'un lieu en un autre, faute de quoi il serait excommunié. Mais jamais on a voulu la mort de l'animal, de ce rongeur, de ce ver, de ce hanneton, etc. Jamais on ne l'a voulu parce qu'on estimait que cet animal était dans l'ordre de la création, qu'il y avait sa place, qu'en fait Noé l'avait fait monter dans l'arche au moment du déluge afin qu'il survive comme tous les autres animaux. Et on nous donne là, dans une certaine mesure, une leçon de sagesse, cette leçon qu'on est en train de réapprendre assez laborieusement en cette année européenne de la conservation de la nature, ce que nos savants appellent la sauvegarde des équilibres biologiques, c'est-à-dire le maintien de toutes les espèces dans des dosages suffisants pour qu'une certaine harmonie d'ensemble règne, eh bien, ces idées un peu savantes, ces idées un peu complexes, la sagesse du Moyen-Âge les avait intégrées.
Une leçon de sagesse, alors, pour vous ?
Oui, absolument.
C'était Arcane 70, une émission de Roger Pilaudin. Ce soir, les procès d'animaux par Jean-Louis Cavalier. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 20 août 1970 sur France Culture.